chronique mutante.
Un magazine queer, punk, anarchiste et féministe.
Tous les samedis de 18h à 19h sur Radio Panique 105.4.
Hello. Bonsoir, bonsoir.
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 Coucou.
Salut.
Bienvenue en plein mois d'août pour Chronique Mutante. On est tous à poil dans le studio tellement il fait chaud.
Et on est au lendemain de veille, ça faisait longtemps.
Ah oui, oui, oui.
On est toutes sorties.
Donc nous, comment on dit, nous dégageons toute responsabilité quant à...
Quant à la qualité du programme.
Quant à la qualité de ce qui va suivre. Bah, enfin, peut-être que ça va être de grande qualité, mais...
Oui, on sait jamais, quoi.
On sait jamais. Sûrement, on va divaguer, oublier ce qu'on dit en plein milieu d'une phrase, rire bêtement. Voilà, vous êtes prévenus. Mais bienvenue.
Bienvenue dans l'univers de Chronique Mutante.
Alors, coucou.
On attend encore des gens, hein, en fait. Au moins une personne.
On attend au moins une personne.
Margot de la Foudre qui va nous parler d'un livre.
Et peut-être un nouveau venu qui va peut-être nous parler de...
De Sophie.
De lui, de musique, de film.
De musique.
Et bah moi, je vais vous proposer les toutes nouvelles, toutes fraîches chronistoriques.
Les chronistoriques, j'adore le nom.
Ouais, et j'ai pas fait de jingle, mais on pourra en faire un en live avec ce qui vient sur...
Des jingles à la bouche,
des jingles à la bouche.
Surtout que chronistorique, ça donne faim.
C'est vrai ?
Ah ouais, ça fait
faim. Tu veux en parler ? C'est toi qui parles de frites depuis tantôt.
C'est vrai.
Parce qu'il y a une excellente friterie à Saint-Josse. Normalement, on ne peut pas faire de pub sur Radio Panique, mais voilà.
Mais vu qu'elle fait de la pub pour Radio Panique sur son fricote, on peut quand même.
Voilà.
C'est vrai. Et elle est très sympathique. Et, et je crois que des fois, elle s'ennuie dans sa caravane. Elle, demande des interactions aux gens qui font la file, de genre, allez, divertissez-moi, quoi.
On va aller la divertir.
Ouais, il faut lui raconter des blagues et tout. Elle est très sympa. Et la pauvre, elle est tout le temps là. C'est pas facile. Eh ben...
Leïla a déjà commencé à divaguer.
Et si on commençait par une petite chanson?
Allez.
Allez, qu'est-ce qu'on s'écoute?
Un remix de Dépêche Mode du morceau Liliane par Skinflutes. Et cette fois-ci, c'est pas un truc... Donc hier, j'ai passé un remix des mêmes gens, mais ce sera pas le même remix parce que je l'ai pas trouvé là. Voilà.
Pain and misery all
Chronique Mutante, une émission Rally cool.
Chronique historique. De l'histoire, des queers dans le placard, ou pas.
C'est ça que tu voulais.
Chronique historique.
Chronique mutante, une émission féministe pour décortiquer, analyser, problématiser les injonctions hétéronormatives et leur histoire.
Merci, bravo. Bon, work in progress, jingle. Alors voilà, je ne sais pas si vous étiez là la semaine dernière.
Oui,
tu étais là, c'est vrai. Et la semaine dernière, j'ai parlé du Legacy Project, qui est un projet culturel éducatif de Chicago qui fait la recherche et la promotion des contributions des lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et queer dans l'histoire.
Je peux t'interrompre juste?
Vas-y.
J'ai ouvert la chat si vous voulez réagir.
Ah voilà. Oui, chattez-nous.
Donc radiopanique.org, colonne de gauche, chat.
Mm-mm, tout à fait. Et la dernière fois, je vous ai parlé d'un personnage potentiellement trans qui... personne née meuf qui, grâce au travestissement, est passée de religieuse à soldat. Et là, je vous propose plusieurs personnages un peu
choisis, c'est ça?
Ben, oui, si tu veux, tu peux choisir. Alors, du coup, il y a une poétesse religieuse lesbienne, un couple gay sanctifié,
oh,
et une armée d'amoureux.
Je partirai sur le couple gay sanctifié.
Eh ben, très bon choix. De toute façon, potentiellement, vu qu'on n'a pas beaucoup de choses prévues...
On va tous les avoir.
Mais oui, le saviez-vous, en fait, il y a un couple d'amoureux romains qui sont célébrés par les chrétiens depuis 300 ans.
Wow, de l'Antiquité, tu veux dire?
Ouais, tout à fait. Et même si le fait que c'était un couple d'amoureux a été effacé, comme, enfin, toute trace, enfin, ils ont été straight-washés avec les siècles, mais ils sont toujours célébrés d'ailleurs les 7 octobre. Pas dans la chrétienté catholique, mais orthodoxe et dans plein de formes de culte. Alors, ils s'appelaient Sergius et Bacchus. Et c'était de jeunes nobles romains, des légionnaires de haut rang. Coucou. Coucou Margot.
Oui, voilà.
Oui, on n'a pas l'image.
Sinon c'est chelou.
Sinon c'est chelou, il y a quelqu'un
qui vient d'arriver dans la salle.
Et qui habitait à Rome en 300. C'était des légionnaires de haut rang de l'armée romaine, stationnés dans la Syrie de la fin du 3e siècle. Et donc, c'était un couple. Ils étaient out, on savait qu'ils étaient amants. Et en fait, ils ont eu surtout des problèmes parce qu'ils étaient dans le placard, pas gay, mais placard chrétien. Parce qu'ils...
Comme disait Pétas hier, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. C'est vraiment quelque chose qui m'a débloqué, je pense, ce texte-là. Je me dirais ça souvent. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème.
Mais moi, je le dis, enfin, je le pense souvent. Déjà.
Ah oui.
C'est une ode à la procrastination.
Et en fait, donc, leur refus d'entrer dans le temple de Jupiter et de faire une offrande a révélé qu'ils étaient des chrétiens refoulés. Les hommes ont ensuite été arrêtés, enchaînés et ont défilé, humiliés dans les rues en vêtements de femmes. Sergius et Bacchus furent alors séparés et battus si sévèrement que Bacchus mourut sous les coups. On raconte ensuite que Bacchus est apparu en rêve à Sergius en lui disant qu'il allait bientôt le rejoindre et d'être courageux, mon chéri. Et voilà, il lui est apparu sous la forme d'un ange en tenue militaire. Et plus tard, Sergius, qui refusa d'abjurer sa foi dans le Christ, fut aussi torturé et décapité. Et par la suite, ils sont... Enfin voilà, donc c'est vraiment les histoires typiques de martyrs qui sont restées dans les traces. Mais voilà, je trouvais que...
Et pourquoi ils ont été sanctifiés par les chrétiens?
J'adore.
J'ai même pas fait exprès, putain,
les chrétiens. Parce qu'ils ont vraiment l'image parfaite de martyrs qui sont morts pour la foi chrétienne, quoi.
Mais c'était, ils ont été torturés pas pour leur homosexualité, du coup.
Non, pas pour leur homosexualité, ah, okay. Mais parce que c'était des chrétiens. Et okay. Alors qu'il fallait des chrétiens et qu'à l'époque, il fallait avoir foi en Jupiter et pas en, okay. Et pas en Jésus, quoi.
Et du coup, après, les chrétiens se sont vengés et ont décidé de torturer les gays, de les convertir.
Je ne pense pas qu'il y a de lien entre, entre
non,
l'un
non,
et l'autre.
Je dis vague.
Oui, voilà, tout à fait.
Vous étiez prévenus.
Et voilà, et en fait, donc, du coup, ils sont, c'est les plus anciens témoignages de leurs martyrs, les décrits comme des erastai, donc c'est un mot grec pour dire amant. Et même qu'ils ont été unis dans un rite de, pardon pour la prononciation, adelphopoiesis, fabrication de frères ou d'amis, comme, fabrication d'adelphes, qui est une sorte de mariage en fait.
Ok, waouh.
De mariage homosexuel chrétien primitif. Et la tombe de Saint-Serge est devenue un sanctuaire célèbre. Et pendant près de 1000 ans, Serge et Bacchus ont été les protecteurs célestes de l'armée byzantine. Donc quand même, c'est pas rien. Ils ont encore été vénérés dans toute la Méditerranée et au Moyen-Orient, où les Arabes chrétiens les considèrent comme des saints patrons. Aujourd'hui, ils sont invoqués par les homosexuels et par toute personne persécutée ou marginalisée par les autorités pour avoir osé suivre son cœur et sa conscience. Et voilà, le martyr des saints Serge et Bacchus a été largement oublié par l'Église institutionnelle moderne, bien qu'il soit reconnu comme martyr par les Églises catholiques, orthodoxes, orientales et orthodoxe orientale. Leur fête est célébrée le 7 octobre.
Ah ouais.
Ouais.
C'est le jour de l'ouverture de la salle coiffe. C'est notre anniversaire.
Ah ouais. Ouais. Un 7. Donc voilà. Tout,
merci.
Plaisir. Merci à ce site. Et du coup, c'est hyper chouette. Enfin, si vous parlez anglais ou si vous notez juste les noms et que vous ouvrez des... continuer des recherches en français, c'est hyper intéressant d'avoir accès à toutes ces histoires-là, qui font aussi vachement relativiser sur l'idée très construite que la progression des droits LGBT, elle s'est faite de façon progressive ou en ligne droite, alors qu'il y a plein d'époques où tu vois qu'il y a ces histoires de mariage gay, de travestissement qui ont pu se faire, quoi. Mm-mm. Ouais, c'est très intéressant.
Tout à fait. L'anthropologie gay.
Mm-mm. Tout à fait.
Vous voulez un petit morceau de musique ?
Oui.
Oui.
Du coup, on va passer Bac 13 avec Gay Beat.
Shall we drive behind all this ignorance? All the T'as fait un truc à tes cheveux?
Non, j'écoute Chronique Mutante.
Ça commence maintenant. Je peux en faire
déjà à l'antenne. Ah oui, on est à l'antenne. On est en train de parler de ce qu'on faisait.
Et vous pouvez nous rejoindre toujours sur la chat de Radio Panique, radiopanique.org, si vous voulez nous parler pendant l'émission.
Ah oui, et en fait, je t'ai pas demandé comment t'as envie qu'on t'appelle à la radio.
Ben Margot, c'est bien. J'avais un pseudo, mais il est utilisé par une autre personne. Je me suis rendu compte dans la commu, et du coup, je suis un petit peu embêtée. Moi, c'est Margot, c'est bien.
Eh ben, coucou, c'est chouette que tu sois là.
Merci.
T'avais envie de faire des chroniques littéraires?
Oui, voilà, sur des livres anciens et nouveaux. Voilà, sur des personnes qui sont pas des mecs cis blancs. Voilà. Et c'est des livres qu'on peut trouver à La Foudre, la bibliothèque féministe de Nas Monique. Voilà. Tous les mercredis de 17 à 20h. Et tous les dimanches de 15h à 20h.
230 Quai de l'Industrie. De quoi t'avais envie de nous parler aujourd'hui?
Bah, j'avais envie de vous parler d'un livre. Je m'entends pas très bien dans le casque. Du coup, je l'ai. Voilà, c'est mieux. J'avais envie de vous parler d'un livre que je viens juste de lire. J'ai mis pas mal de temps à le lire, ce qui est assez rare.
C'est un gros machin aussi.
Ouais, c'est un gros pavé. Et en fait, j'ai lu il y a 2 ans le précédent livre de cette autrice, qui est une autrice américaine, qui s'appelle Anya Yanagihara, que je prononce peut-être pas hyper bien, mais voilà. Et j'avais vraiment énormément aimé le précédent, même si c'était hyper violent. Et voilà, je préviens qu'il y a un gros trigger warning sur ce livre en termes de violence dans l'enfance et de difficultés de vie. Enfin, vraiment, c'était assez hard et ça s'appelle Une vie comme les autres. Mais c'était très intéressant et très beau. Il a un peu défrayé la chronique parce qu'il a divisé la communauté LGBT, car le personnage principal est homosexuel et a quand même un vécu assez atroce. Donc, il y a aussi toute une partie des critiques qui disaient que c'était pas... Enfin, qu'on avait envie de voir autre chose, quoi. Des personnes qui sont pas en grande souffrance comme ça. Mine de rien, c'est quand même un livre qui m'avait beaucoup parlé de manière plus générale sur comment vivre avec des traumas, quoi. Donc je pense que ça peut s'appliquer à plein de vécus différents. Et là, elle a écrit un nouveau livre, et j'étais très curieuse quand même de... J'étais un peu inquiète de si c'était aussi violent, parce que quand même je me sentais pas hyper bien après l'autre. Et en fait, beaucoup moins, donc rien à voir. Il est un petit peu... il est moins dur, mais il est moins accessible. L'histoire est plus complexe à suivre. Et c'est vraiment assez intéressant. J'avais envie de parler... Excusez-moi, je suis un peu stressée, en fait. Donc,
T'inquiète pas.
Je tâtonne.
comment il s'appelle, celui-là?
Celui-ci s'appelle Vers le paradis. Et en fait, cette autrice, elle est née en 1974 à Los Angeles. Voilà. Mais elle est originaire, en fait, d'Hawaï. Et son père, lui, est originaire du Japon et sa mère de Corée. Okay. Donc, elle a vraiment une... elle est vraiment... c'est une personne racisée avec plusieurs influences culturelles dans sa vie, dans sa famille, et qui a subi, notamment en revenant aux États-Unis, qui a vécu le racisme pour la première fois. Et elle en parle assez bien en disant qu'elle a vraiment compris à ce moment-là à quel point sa présence était vraiment, pouvait changer un moment donné, un moment T avec des personnes, l'atmosphère générale. Et elle a intégré la honte à ce moment-là. Et tous ses livres parlent de la honte, en fait, intériorisée d'être qui on est. Et tous ces personnages, en fait, vivent cette honte-là à des endroits différents, des choses différentes. Et là, dans ce livre, Vers le paradis, qui est construit en 3 parties, elle va parler... Au départ, c'était juste, elle voulait s'amuser à réécrire un livre de Henry James, qu'elle avait trouvé assez amusant. C'est Washington Square, de Henry James, qui est une histoire assez banale finalement, qu'on a beaucoup en littérature, de une femme qui veut se marier, qui doit se marier avec quelqu'un, et en fait elle est amoureuse d'un autre qui n'est pas du même statut social qu'elle, et du coup ça fait mauvais genre. Et elle s'est dit, tiens, je vais réécrire cette histoire qui se passerait au même endroit, à la même époque, dans la même maison, mais dans un univers où en fait aux États-Unis il y aurait toute une partie, il y a New York en fait, serait un état libre où les personnes de même sexe peuvent se marier ensemble. Donc elle s'est dit, j'ai envie de voir ce que ça fait d'écrire une histoire, enfin un récit historique avec des personnages homosexuels et qui peuvent vivre ces amours-là, mais qui sont quand même dans un état raciste, dans un état où le statut social compte. Et donc elle raconte toute une première partie comme ça en faisant une réécriture d'Henry James. Alors c'était comme un peu un jeu au départ. Et au fur et à mesure, elle a écrit deux autres parties qui se passent dans la même maison et à chaque fois avec 100 ans d'intervalle. Donc la seconde partie se passe en 1993 et ça raconte une toute autre histoire d'un jeune Hawaïen qui vient s'installer à New York et qui va se mettre en couple avec un type de sa boîte qui est d'un bien meilleur statut social, qui est un peu son patron en fait d'une certaine manière, qui a 10 ans de plus que lui. Et ils vont se mettre ensemble. Et c'est assez fin parce que c'est pas du tout manichéen, ils sont très amoureux, mais il y a évidemment plein de dynamiques de pouvoir dans leur couple parce que l'autre est blanc et lui ne raconte rien de sa vie parce qu'il a un passé qui est assez intéressant, c'est qu'il est l'héritier du royaume d'Hawaï qui a été colonisé et du coup cette royauté n'existe plus, mais il vit avec un espèce de passé comme ça très présent. Et dans son quotidien, il n'en parle jamais à son compagnon, qui lui est en train d'enterrer tous ses amis en pleine période de sida en fait. Donc c'est un passage assez intéressant. Tout se joue vraiment dans les relations intimes. Vraiment, le politique se joue dans des choses très très subtiles, dans les dialogues entre les amis. Il veut inviter sa meilleure copine à manger chez son mec, mais en fait, elle vient d'un complètement autre univers. Du coup, elle a honte, elle n'ose pas rentrer dans la maison. C'est toutes ces choses qui sont en jeu, et c'est assez fin. Et la dernière partie, c'est là que c'est assez étonnant qu'elle ait osé faire ça. Ça se passe en 2094, voilà, à New York. Voilà, réchauffement climatique plus, plein d'épidémies. C'est assez amusant parce qu'elle a fini cette partie avant le confinement. Donc, il y a une recrudescence d'épidémie. Et la personne qui parle est une jeune femme avec une déficience mentale liée au fait qu'elle a eu elle a dû prendre un médicament parce qu'elle a été atteinte par une des épidémies. Elle a été sauvée et on ne savait pas, ce médicament avait été mal testé. Et elle se retrouve avec, elle est considérée après comme anormale et inapte dans la société. Et son grand-père, qui lui est extrêmement riche et surtout bien vu parce qu'il est un virologue connu qui a créé des camps pour enfermer les personnes atteintes de certaines des maladies pour éviter de contaminer la population, va essayer de la protéger. Alors à la fois, cet homme-là, il est acclamé par la moitié de la population et l'autre moitié de la population a vraiment envie de le tuer parce qu'il a quand même créé une nouvelle forme de camp de concentration. Et c'est elle qui raconte l'histoire avec toutes ces difficultés sociales qu'elle peut avoir. Elle va raconter la vie à New York dans un état policier constant, mais dans les trucs du quotidien vraiment, dans les rapports du quotidien avec ses voisins et avec comment elle perçoit le monde, quoi. Et c'est vraiment assez intéressant. Et au début, on a l'impression qu'on lit un livre un peu comme Cloud Atlas et que tous les personnages vont avoir un lien, comme un lien de famille, puisqu'ils vivent tous dans la même maison. Il y a aussi ça, ils sont dans la même maison. Mais en fait, pas du tout. Et ils ont tous des prénoms similaires. Donc la première partie, il y a toute une liste de prénoms qui est réutilisée dans la deuxième, réutilisée dans la troisième. Donc c'est un peu déstabilisant au début, parce qu'on se dit, mais il y a un lien. Et en fait, pas du tout. Elle a vraiment envie un peu de nous perdre. Elle s'est amusée. Et moi, j'ai trouvé ça pas mal, justement, que ça aille pas du tout là où on s'attend. Et j'avoue que moi, au début, je m'ennuyais un peu, franchement. Et je me suis dit, non, mais je vais jamais y arriver. Et à un moment donné, j'étais complètement prise, quoi. Et il y a une vraie empathie pour les personnages. Et il n'y a pas du tout de... C'est pas du tout manichéen. On entend tous les points de vue. On voit les subtilités des vies de chacune. Et on voit comment ils en sont arrivés à avoir telle ou telle réflexion, de mener telle ou telle action. Et donc j'ai trouvé ça vraiment...
Lui, c'est une manière de parler de politique sans faire des discours, hors sol ou quoi. Là, c'est un truc entre intime et...
Exactement, oui.
On dit souvent que l'intime est politique.
Bah là, en tout cas, c'est complètement le cas, notamment dans la seconde histoire avec ce couple assez qui a une grande disparité, où il y a une grande disparité de pouvoir, notamment. Là, c'est intéressant parce que l'amour est là, le soin, la tendresse, et en même temps toutes les disparités et ce que ça implique aussi de violence à l'intérieur de cette relation, de violence consentie aussi pour le personnage principal qui lui se dit qu'il a envie qu'on s'occupe de lui, on s'est jamais vraiment occupé de lui et là il se dit il y a quelqu'un qui va prendre soin de moi et je peux lui faire confiance, en plus il a de l'argent, donc il y a tout un rapport amoureux un peu bancal et en même temps ils y trouvent leur compte.
Et c'est compliqué de aussi de vivre hors de de toute dynamique de pouvoir, même de façon hyper fine, quoi. Enfin, il y a un truc aussi, j'ai l'impression qu'on pense souvent les dynamiques d'oppression de façon très très blanche ou noire. Il y a une personne soumise, une personne qui profite, mais c'est... Ouais.
Non, mais c'est intéressant parce qu'on voit aussi pourquoi le personnage est comme ça, parce qu'après on a toute la vie de son père qui est racontée, qui était le roi de Hawaï déchu, en fait. Mais il y a des grosses manifestations à ce moment-là où des personnes à Hawaï veulent réinstaurer la monarchie hawaïenne. Et il se retrouve embarqué avec un ami qui est un peu manipulateur et qui a... c'est une sorte de délire mégalomane. Et qui essaie de l'embarquer et de le remettre sur le trône. Mais dans un... Tout est complet... Enfin, rien de ça existe. Tout est basé sur des histoires anciennes. Et il se pose la question, par exemple, notamment de qu'est-ce que c'est être hawaïen. Et donc, ce personnage qui essaie d'emmener son copain, qui est l'héritier du trône, lui est persuadé qu'il faut absolument que parler hawaïen. Mais lui-même, en fait, n'a jamais parlé vraiment hawaïen. Donc, il essaie d'apprendre, mais il galère. Et c'est qu'est-ce que c'est l'identité, du coup, là, en l'occurrence, d'être hawaïen. Et en même temps, d'avoir des mœurs qui sont différentes, parce qu'il y a eu toute une période de colonisation qui date déjà. Bref, en tout cas, il y a plein de choses. C'est assez foisonnant.
Tu peux rappeler le titre du livre et l'autrice, s'il te plaît ?
Oui, c'est Anya Yanagihara, l'autrice, et ça s'appelle Vers le paradis, sous édition Grasset. Voilà.
Okay. Merci. Et il a la foudre ?
Il est à la foudre. Okay. Maintenant, oui.
Ouais. Maintenant, oui. Maintenant que tu l'as fini, c'est bon,
voilà.
Il est disponible.
Voilà, c'est ça.
Moi, ça m'a touchée juste au tout début quand tu as dit que dans le livre précédent, il y avait des critiques dans la communauté. Mm-hmm. De dire, oh non, une histoire négative. Et je trouve ça hyper intéressant de... Est-ce que c'est parce qu'on manque de représentation tout court qu'on peut avoir une exigence de ces formes de représentation ? Alors que c'est nécessaire aussi de traiter, ouais, comme tu dis, de la honte ou des traumas ou que ça existe, quoi.
Bah, moi, j'ai énormément aimé le livre. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on suit un groupe d'amis. Donc le précédent qui s'appelle Une vie comme les autres, on suit un groupe de 5 amis de l'université jusqu'à leur mort. Et c'est 5 copains, donc c'est sur des amitiés masculines. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était... J'avais jamais lu ça, en fait, avant. On va avoir des parcours de vie très différents et vont rester amis. Donc ça, déjà, je trouvais que c'était assez étonnant. J'avais jamais lu ça. Et le personnage vraiment principal autour de qui gravitent tous les autres est un personnage vraiment abîmé, enfin, à la fois très mystérieux, tout le monde l'admire, mais lui-même vit dans une espèce de honte constante, et notamment s'automutile. Et donc il y a des scènes d'automutilation qui sont assez hardes, et en même temps, c'est la première fois, j'avais l'impression de lire quelque chose où j'avais l'impression de pouvoir ressentir ou me mettre à la place d'eux, et que c'était très, très fin à ce niveau-là. Après, il y a des endroits, des choses que j'ai passées, des passages entiers que j'ai sautés. Et là, je me suis dit, ok, c'était peut-être pas nécessaire.
Parce que c'était trop dur à lire ?
Ouais, c'était trop dur à lire. Les passages où il y a de l'automutilation, on comprend déjà qu'il y a un drame derrière ça. En fait, on n'a pas forcément, moi j'ai trouvé personnellement, qu'on n'avait pas forcément besoin de voir le drame dans sa description la plus atroce de l'enfance à l'adolescence, pour comprendre ce qui arrive à ce personnage. Et ça, j'ai trouvé que c'était un peu moins fin, en tout cas, et pas nécessaire. Et moi, j'ai aucun souci à faire ça. Là, quand j'étais vraiment pas très bien, j'ai fait, bah, ok, je passe, c'est pas grave, j'ai compris. J'ai compris ce que vivait le personnage. J'avais pas besoin de lire ça pour comprendre. Et franchement, j'ai pas lu certains passages. Ouais.
Okay.
Et donc, je suis aussi d'accord que là, il y avait des trucs qui étaient peut-être pas complètement nécessaires dans le trash et l'horreur, quoi. Mais en même temps, moi, j'ai passé ces pages-là et j'ai trouvé ça très bien, du coup.
Ça peut être des récits rares aussi, quoi.
Oui, voilà. Après, je pense qu'il faut le savoir parce que c'est... Enfin, il devrait l'écrire au début, je pense vraiment, parce que là, ça peut réveiller vraiment des... Enfin, moi, personnellement, j'ai été assez mal à certains moments de la lecture. Mais voilà, je pense que c'est important de le savoir.
Et comment s'appelle l'autrice ou l'auteur ?
C'est toujours la même, c'est Anya Yanagihara. Voilà.
Ok.
Merci beaucoup.
On s'écouterait une petite chanson.
Oui, tout à fait. On va écouter Cartel Couture avec Jagas.
se passe, j'agace. De haut en bas, de dos, de face, j'agace. Quand je déchire, je reste classe, j'agace. Je prends des textes comme je repasse, j'agace. Je bois paillettes, je mange strass, j'agace. J'ouvre les yeux quand on m'embrasse, j'agace. De paraître aussi sympathique avec ma tronche de bobo chic et ma musique qui pue le fric, j'agace, j'agace. J'agace, j'agace, j'agace. Je bouge des fesses comme une chaudasse. J'agace, j'écoute Kelly et Stacy Q. J'agace d'assumer autant de bon goût. J'agace, j'ai le poil court, le cheveu long, la bouche humide, les yeux tout ronds. Et en plus je suis beau garçon. J'agace, je fais la cour avec humour. J'agace avec ma moue de pompadour. J'agace, j'ai du talent, je suis modeste. J'ai l'art de retourner ma veste. Quand tu m'adores, je te déteste. J'agace, j'agace. J'agace. J'agace d'être d'ici et de là-bas, d'avoir goûté à tous les plats. J'ai fait le choix de ne le faire pas. J'agace, j'agace. Déjà petit, avec ma coupe de Playmobil, j'étais le plus beau de la récréation.
Le plus beau de la récréation.
Et je baignais mes cheveux longs, mes beaux cheveux longs. Et c'était la classe. C'est toujours moi qui ai la classe.
Je gasse. Bon Dieu.
Je gasse.
C'est le moment de
chronique historique
avec des historiques dedans.
Ah, des histoires. C'est vachement mieux que le premier jingle.
Je pense qu'on peut l'extraire du podcast pour en faire un jingle celui-là.
Alors, est-ce que vous avez envie d'entendre parler de Sœur Juana Inés de la Cruz?
Si elle est lesbienne, oui.
Oui, tout à fait. Enfin, ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que je fais des interprétations, tu vois, les personnages peuvent être lesbiennes, bisexuelles, genderqueer, des personnes trans.
On ne sait pas.
C'est des mots qui n'existaient pas à l'époque où ils ont existé et on ne sait pas du tout comment ils se seraient définis. Mais elle m'a l'air d'être une Gwyn, tout à fait. Alors, Sœur Juana a vécu entre 1648 et 1695. C'est une pionnière féministe et lesbienne. Et elle était poétesse, religieuse, intellectuelle dans l'actuel Mexique du XVIIe siècle. Elle est née hors mariage, donc dans une famille, dans un milieu pauvre. Donc ça, c'est aussi très intéressant parce que c'est très difficile de trouver des personnes documentées qui ne viennent pas de milieux bourgeois et aristocratiques. Donc c'est aussi qui peut se permettre d'avoir sa vie documentée.
On raconte la vie des aristos, quoi.
Ouais, oui, mais en même temps, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est aussi, il y a des traces d'eux. Et donc elle s'est fait connaître parce que c'est une très grande intellectuelle et une poétesse reconnue encore aujourd'hui au Mexique. Je crois qu'il y a sa tête sur des billets d'ailleurs.
Waouh.
Donc je vais pas forcément vous parler de personnes inconnues, mais enfin c'est au niveau occidental ou enfin de personnes que en tout cas moi-même je ne connaissais pas. Voilà. Donc elle se fait remarquer très tôt pour son génie autant du latin à la géométrie. Elle est très très intelligente et elle a une passion pour l'apprentissage, la lecture, etc. À l'âge de 16 ans, elle demande à ses parents la permission de se déguiser en homme afin d'aller étudier à l'université qui était interdite aux femmes. Donc ça déjà, ça me plaît, ça montre déjà une chouette relation avec ses parents et que le travestissement était chose assez banale.
Oui, tout à fait.
Pour obtenir demander, des choses auxquelles tu n'as pas le droit. Il refuse et du coup, l'option qu'elle a, c'est d'entrer au couvent. Parce que l'entrée au couvent, quand t'es une femme, c'est la seule manière à cette époque pour avoir accès à l'éducation, pour pousser ton éducation. Elle se met quand même bien. Elle a une cellule, mais qui a l'air aussi d'un mini-appartement où elle entasse 4000 livres. Et dans cet espace devient même un lieu de rencontre, un salon philosophique et littéraire où le gratin de Mexico débarque. Enfin, elle commence à se faire connaître. Pourquoi ? Parce qu'elle fait des poèmes et elle se distingue par sa plume. Donc on considère que ces 4000 livres, c'est pour l'époque une des plus grandes bibliothèques privées du Nouveau Monde à l'époque.
C'est marrant parce que si elle est religieuse, elle est censée pas accumuler de livres et elle est censée pas faire une sociabilité mondaine et elle est censée ne penser qu'à Jésus-Christ, pas écrire des poèmes sur toute autre chose que Dieu.
Elle a que des mauvais points.
Donc ça devait être assez flexible à ce moment-là, là où elle était, parce que normalement les cathos sont connus pour être de fervents ostracisants.
Oui, bah du coup je me suis pas beaucoup penchée sur les mouvements religieux du Mexique au XVIIe siècle.
C'était une remarque, mais pas.
Mais en tout cas, on peut remarquer qu'il y a plein de milieux religieux avec différentes formes de possibilités.
Ça dépend des époques.
Ouais, comme les Béguines, par exemple, trouve des traces en Belgique où elles étaient laïques, elles avaient la possibilité de partir du mouvement quand elles voulaient. Ouais. Elles avaient une forme de mini-démocratie à l'intérieur, même si les classes sociales étaient très importantes à l'intérieur. Enfin, genre. Vu que la majorité des femmes qui n'avaient pas d'argent finissaient au couvent, on peut imaginer qu'il y a eu finalement plein de possibilités, que la religion semble être le pire endroit pour les femmes, mais que finalement on remarque que... C'est moins pire que le mariage, c'est des espaces en non-mixité et où il y a plein de possibilités et plein d'histoires de Gwyn aussi. On lui prête d'ailleurs pas mal d'histoires d'amour avec certaines de ses congénères. Et parmi les élites de la ville qui viennent donc dans ses appartements, il y a une comtesse qui lui fait un sacré effet, qui s'appelle Maria Luisa de Paredes, et elles entament une relation, et Juana lui dédie de nombreux poèmes. Donc ça se fait à l'époque pour les poètes de faire des éloges à des personnes, surtout de l'aristocratie, mais ces poèmes ont des tournures assez romantiques, où elles se comparent à plein de grands poètes amoureux connue. Et en fait, c'est pas son homosexualité, ses poèmes d'amour qui dérangent à l'époque, mais la menace finalement que ses écrits représentent pour l'autorité traditionnelle. Donc même si elle a une vie où elle prend sa liberté, faut pas déconner non plus. Donc comme je disais au début, c'est une féministe pionnière et en fait elle prend la liberté en fait dans son œuvre de critiquer les institutions, critiquer la religion pour défendre les droits intellectuels des femmes, condamner l'Église qui contribue à maintenir les femmes sans éducation. Et pour avoir défié les valeurs de la société et du dogme ecclésiastique, elle a été censurée par l'Église. Et du coup, comme elle a beaucoup de mal à continuer, en 1694, à la fin de sa vie, elle fait un rejet en fait de sa... Elle arrête en fait d'écrire et elle fait donation d'un grand nombre de ses livres pour aider les pauvres à accéder à l'éducation. Et voilà, donc, mais on... Nanana... mais ses poèmes et ses pièces de théâtre ont été largement lus et lui ont valu une renommée en Europe et en Amérique espagnole pour avoir célébré, par exemple, aussi les cultures amérindiennes, le Mexique, ce qui lui a valu la réputation d'être l'un des plus grands poètes lyriques de son époque. Sœur Juana est représentée sur le billet de 200 pesos mexicains et c'est une source d'inspiration et un objet d'étude pendant des siècles. Son ancien couvent d'ailleurs est aujourd'hui l'université du cloître Sœur Juana.
Eh ben. Merci.
Plaisir.
Viva Sœur Juana.
Viva Sœur Juana.
On passe une chanson ?
Oui, alors je me demandais quoi passer. Et alors, figurez-vous, chers auditeuristes, que nous avons reçu une revue qui s'appelle Panthère. J'imagine qu'on en parlera peut-être une prochaine fois après l'avoir lue. Mais je commençais à lire l'éditorial et ça parlait de mycélium, le champignon, là. L'éditorial parle de mycélium, c'est toute une ode au mycélium. Et donc, du coup, comme hier, j'ai passé un morceau de mycélium, je vais le repasser là.
Et la boucle est bouclée.
Voilà.
C'est un champignon.
Matérialiste du bonheur terrestre. Oups. Par la satisfaction et de la satisfaction toujours renouvelée des désirs. Le profit, l'argent, la propriété. Vive la société de consommation pour les riches et pour les pauvres.
Attaque la banque mondiale. Attaque la banque et brûle le fric. Go! Dans tous les paradis fiscaux, les
C'est bien vrai. Et de retour dans la dernière ligne droite de Chronique Mutante. Alors, on va vous parler, on va vous faire l'agenda. Alors, je ne sais pas si vous étiez... si vous nous écoutiez la semaine dernière, c'était la semaine dernière ?
Tout à fait.
Tout à fait, où on recevait le collectif Éclat pour nous marcher, pour nous parler de la marche Trans-Inter qui aura lieu demain à 15h. Le rendez-vous, c'est Place de l'Albertine à Bruxelles. À Bruxelles, oui. Et voilà, ça va être très chouette pour toutes les personnes trans et inter pour se donner de la force, réclamer les espaces publics. Et les alliés sont invités à rejoindre la marche. Derrière.
Derrière.
Derrière. Voilà.
Qu'est-ce qui... Sinon, la semaine prochaine, il se passe quand même quelques trucs anasmoniques.
Ah oui, cet endroit dont on vous parle.
Donc on vous parle souvent. Mardi 1er novembre, donc c'est férié mardi. À partir de 17h, c'est un forum de discussion, porte ouverte, rencontre entre les usagers, usagères et les personnes du collectif Nasmonique. Ouais, c'est ça. Notre invité mystère pourrait peut-être mieux nous en parler. Notre invité mystère n'est entre autres que l'ambassadrice de Nasmonique. Quelle chance nous avons.
Quelle chance.
Oui, oui,
bonsoir.
Bonsoir.
Un petit mot sur cette journée qui se prépare mardi.
C'est donc l'idée, en fait, petit à petit, qui est plus d'ambassadeurs et ambassadrices anasmoniques, justement, pour que nous soyons donc plein à faire l'accueil, à être donc dans cette volonté d'ouverture.
Tout à fait.
Pour proposer aux gens de s'impliquer.
C'est ça, en fait, parce qu'on voit qu'autour de nous, il y a plein de monde qui a envie souvent en fait, d'aider, mais on ne sait pas toujours comment, ni que c'est tout à fait bienvenu. Et aussi, à force de vivre le lieu de l'intérieur, je crois qu'on est très intéressé de savoir les retours de l'extérieur. Donc, par exemple, comment c'est d'organiser avec nous, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire un espace le plus safe possible, etc. Et donc, il y a des questions sur lesquelles on ne peut pas, on ne veut pas, en tout cas, avancer tout seul. On préfère avoir des retours. Et puis, ça fait aussi un moment pour que les usagers, usagères du lieu puissent se rencontrer, en fait, parce que tu as des personnes, parfois, qui font des activités à tel moment, qui ne rencontrent pas forcément les autres, alors que les personnes sont peut-être fort présentes dans le bâtiment. Régulièrement, je rencontre des personnes qui sont, pour qui le bâtiment est important, qui ont trop envie de nous connaître, qu'au final je connais pas, alors qu'effectivement je suis quand même assez souvent là. Donc je me dis qu'il y a vraiment beaucoup de monde en fait qui...
Que l'endroit brasse quoi.
Que l'endroit brasse exactement. Et donc comme c'est férié, que c'est le 1er novembre, et ça fait un peu renouveau quoi. C'est voilà, la fête des morts, le renouveau, tout ça, ça se met bien. Et donc voilà, rejoignez-nous vers 17h. On va commencer donc le forum ouvert et aussi une rencontre, on va dire, informelle, quoi, le moment aussi d'échanger toutes vos idées, vos envies, etc. Et puis voilà, d'avancer ensemble sur ce beau projet.
Mm-hmm. Et ça sera suivi d'un repas.
Tout à fait.
Voilà.
Un petit repas et puis on peut mettre de la musique ensemble.
Passer
un chouette moment, quoi, tout simplement.
Mm-hmm. Et le lendemain ? Le lendemain, il y a une récolte d'amourage le mercredi 2 novembre. C'est certaine heure.
À 19h45.
À 19h45. Et n'ayant pas encore vu de récolte d'amourage, je ne sais pas si je pourrais bien en parler. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une récolte d'amourage ici ?
Non.
Non.
Moi, j'ai vu une fois.
Ok, peut-être.
Mais je pense que ça a pas mal évolué depuis que je l'ai vu.
Ok.
Mais en tout cas, l'idée étant de... communier un peu participer le public à une sorte de mise en mouvement des corps et je sais pas trop comment l'expliquer autrement. Il y a un aspect assez
interactif.
Interactif et puis qui est vraiment aussi je pense bienvenu pour un public jeune.
Okay.
Et d'enfants. Si jamais
vous avez des enfants, vous pouvez venir avec vos enfants.
Complètement.
Mais aussi, ça, en fait, c'est fait pour un public d'enfants, mais aussi pour un public d'adultes.
Complètement, oui.
Je pense que c'est un spectacle participatif, en tout cas participatif avec les corps, à un moment du spectacle, j'ai l'impression. et c'est un personnage qui est extraterrestre et qui a débarqué sur la planète Terre. Je pense que c'est, on est dans ce délire là, et qui doit faire des récoltes d'amourage avant le 13-12, donc le 13 décembre, et qui doit récolter, je pense, 1312 amourages, quelque chose comme ça, pour remplir sa mission. Et donc c'est vraiment un marathon là en ce moment de ce personnage qui s'appelle Flamme, et qui est en train de toutes les semaines de récolter de l'amourage pour, je crois, sauver peut-être la planète Terre. En tout cas, la mission, ce n'est pas rien du tout.
Ah oui, oui, bah faut venir. Hein.
Donc voilà. Et donc, plus on est nombreux, nombreuses, mercredi 2 novembre à Nastonic pour aider Flamme, et plus nous irons mieux, je crois.
Trop bien. Bah, c'est hyper bien présenté. Ouais, ça, et Yael l'appelle un spectacle animation.
Ah, c'est un spectacle animation.
Voilà. Voilà. Donc ce sera. Voilà, mercredi 19h45 à Nasmonique. Vous pouvez venir dès 17h parce que tous les mercredis, il y a la permanence du Café Queer à Nasmonique 230, qui est de l'industrie.
Et la foudre.
Et l'atelier vélo Dynamonique.
Et la salle coiffe. Et des jeux de
société. On dirait vraiment une émission pub.
Et la récup. Bah oui, on peut parler d'un conflit d'intérêts d'ailleurs, carrément.
Bon, avant c'était le Barlock, maintenant c'est Nasmonique.
Je dois vous couper parce qu'il y a un truc après.
Ok.
Ah oui, bon, d'accord.
Voilà.
Mais il nous reste 30 secondes, je te ferai dire.
Et ben ça va être le moment pour nous d'aller manger des frites et on vous souhaite une très bonne soirée.
Bisous, à la semaine prochaine, on espère recevoir les Pink Screens.
Quoi ?
Et on vous laisse avec Panikorama, pardon. Et on reçoit les pardon, du coup.
Bah, on va leur demander d'abord. Ouais. Bisous, bisous.
Bisous.
À la semaine prochaine.